Les podcasts du Collège de France, biologie.
Très bien, bonjour. On arrive à la huitième heure de ce cours. Et je vais aborder aujourd'hui un point qui est d'ailleurs, je crois, que j'ai mentionné à plusieurs reprises tout au cours de cette exploration des mécanismes cellulaires et moléculaires de la neuroénergétique. Puis, la dernière fois, j'avais aussi abordé cette question de la plasticité de la neuroénergétique, en particulier des relations métaboliques neurone-glie. Mais un point dans lequel la neuroénergétique se projette de manière extrêmement utile et qui permet de réfléchir sur diverses dimensions, c'est bien entendu le fait que les phénomènes vasculaires et métaboliques qui sont associés à l'activité synaptique fournissent les signaux qui sont détectés par les techniques d'imagerie fonctionnelle cérébrale, que ce soit la TEP, la tomographie à émission de positons, qui permet de détecter, en utilisant des molécules marquées de manière appropriée avec des émetteurs de positons, la consommation de glucose avec le fluor 18 déoxyglucose, le débit sanguin avec l'eau marquée à l'oxygène 15 et la consommation d'oxygène avec l'oxygène 15 directement. Et puis, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle qui détecte en fait le rapport entre oxy- et déoxyhémoglobine qui est modifié, et je discuterai ça dans un instant, et cette modification du rapport oxy-déoxyhémoglobine produit un signal qui est le signal BOLD, pour Blood Oxygen Level Dependent Signal, BOLD, qui est le signal qui est détecté, le signal principal, en tout cas, qui est détecté par ces techniques d'IRM fonctionnelles. Donc, si vous voulez, on fait une transition qui va nous amener ensuite à l'utilisation de ces techniques d'imagerie cérébrale fonctionnelle pour explorer certaines pathologies psychiatriques, ce que l'on verra peut-être en fin de cette heure ou la dernière fois. Donc le point central que je vais discuter aujourd'hui, c'est en fait les observations qui sont faites par ces techniques d'imagerie fonctionnelle, qui sont d'une manière générale utilisées et exploitées de manière très intéressante pour faire une cartographie, notamment, des régions impliquées dans telle ou telle fonction, et notamment pour les fonctions cognitives supérieures. Donc, ce sont des techniques qui ont énormément apporté au domaine des neurosciences cognitives, mais je vais, moi, l'aborder non pas du côté des aspects cognitifs, ce pourquoi elles sont finalement très utiles, mais je vais l'aborder du côté de la neurobiologie, si vous voulez, de la neuroénergétique, parce que, d'une part, c'est tout de même intéressant de savoir comment sont produits les signaux que l'on observe. Évidemment, ça fait partie du désir de connaissance de base. Mais surtout, je pense que la connaissance de l'origine de ces signaux, des mécanismes cellulaires et moléculaires qui produisent ces signaux, évidemment, permet d'interpréter de manière originale et peut-être avec une incisivité qui n'est pas possible autrement, les modifications éventuelles dans des situations physiologiques, physiopathologiques, pathologiques. Voilà donc ce sur quoi va porter ce cours, et donc tout particulièrement sur des signaux TEP, des signaux d'IRM fonctionnel et des signaux de résonance magnétique en spectroscopie. Alors, je n'ai pas besoin, je pense, de m'étendre outre mesure, je crois que j'ai d'ailleurs mentionné déjà quelques reprises dans le cours, pour noter le fait que les signaux qui sont détectés par la TEP, et en particulier par le 2-déoxyglucose marqué au fluor 18, implique, de par de par ce que nous avons vu en détail en relation au couplage neurométabolique, au rôle des astrocytes dans ce couplage, et en particulier du rôle de la glycolyse astrocytaire. Vous vous souvenez donc bien que le signal glutamate enclenche une série de mécanismes intracellulaires qui déplètent l'astrocyte en ATP transitoirement, ce qui va faciliter une entrée de glucose, et que ce glucose est essentiellement transformé en lactate par un processus glycolytique, donc qui ne consomme pas d'oxygène. C'est la définition même de la glycolyse, c'est la production d'ATP sans consommation d'oxygène, et que ce lactate peut ensuite être utilisé par les neurones parce que transformé en pyruvate, il va pouvoir produire de l'ATP par la phosphorylation oxydative, par l'activité oxydative qui est très active évidemment dans les neurones. Donc on a vu tout ça en détail. Alors ceci implique que le signal TEP, 2-déoxyglucose, a en tout cas en partie une origine gliale. Parce qu'en fait, ce 2-déoxyglucose s'accumule dans les cellules gliales. Vous vous souvenez aussi que le 2-déoxyglucose, en fait, est métabolisé jusqu'en 2-déoxyglucose 6-phosphate. Et ensuite, les enzymes de la glycolyse sont spécifiques et ils s'accumulent, comme c'est utilisé sous forme de traceur, ça n'a aucune... Ça ne présente pratiquement pas de risque du point de vue radiologique. Tout de même, cela implique qu'il y a ce signal TEP 2-déoxyglucose dépend fortement de ce couplage et en particulier des fonctions gliales. Ce qui veut aussi dire, et je reviendrai plus tard là-dessus, que des altérations du signal TEP 2-déoxyglucose peuvent bien sûr être en relation à des altérations primairement neuronales, dans la mesure où, comme je l'ai toujours dit, bien que le signal soit d'origine gliale, ou implique en tout cas un couplage glial, le signal de départ, c'est du glutamate libéré par les neurones. Donc ça reste un signal neuronal au départ, et certainement très utile pour cartographier les réseaux impliqués. Mais il se peut aussi que, au regard d'une activité glutamatergique normale, il se pourrait que si des mécanismes de couplage astrocytaire sont anormaux, le signal TEP sera anormal ou différent. Donc, je ne reviens pas particulièrement sur ça, je le reprendrai plus tard. J'aimerais m'attarder quelques temps maintenant sur la question de la relation qu'il peut exister entre ce couplage neurométabolique neuroglial avec le signal détecté par IRM fonctionnel. Et puis également, je discuterai par résonance magnétique en spectroscopie. Alors, quelle que soit la méthode que l'on utilise, mais essentiellement la TEP, qui permet d'utiliser les trois paramètres, débit sanguin, consommation de glucose, consommation d'oxygène, ce que l'on voit d'une manière générale, et vous ne serez probablement pas surpris de cela, c'est qu'en fait, il y a un couplage très étroit entre une activation, donc ici une activation visuelle, un système d'échiquier qui bouge de manière en rotation, et ceci produit un très fort stimulus pour le cortex visuel primaire. Eh bien, en TEP, on va mesurer une augmentation du débit sanguin importante dans le cortex visuel primaire, l'eau marquée à l'oxygène 15, une consommation de glucose importante par le 2-déoxyglucose. Mais en fait, et ça, ce fut une observation faite par notamment Mark Raichle, dont je parlerai beaucoup aujourd'hui, et ses collaborateurs, dans le cas particulier Michael Fox, qui avait montré pour la première fois un découplage. C'est-à-dire que, alors c'est une question qui a été beaucoup discutée, mais je crois qu'il y a aujourd'hui essentiellement une unanimité là autour. Lors de l'activation, le débit sanguin et la consommation de glucose augmentent de manière corrélée à l'activation, alors que la consommation d'oxygène est découplée. Elle n'augmente pas ou peu. En tout cas, certainement moins que la consommation de glucose et le débit sanguin. Donc, il y a ce que l'on appelle, je reviendrai souvent, un découplage, ce qui veut donc dire, qui est peut-être transitoire. Alors, les constantes de temps avec l'utilisation de différentes technologies ne sont pas toujours comparables, et je vais discuter cela, mais enfin, gardons à l'esprit que, d'une manière générale, lors de l'activation d'une région corticale, il y a un certain degré de découplage entre le débit sanguin et la consommation de glucose d'une part et la consommation d'oxygène d'autre part, qui augmente moins. Ça peut dépendre aussi des paramètres de stimulation, des paradigmes, etc. Mais disons, le principe général, je crois, on peut dire, est établi. Alors, qu'est-ce que ça va signifier ? En fait, cette observation de Raichel et Fox en 88, en fait, stimula Seiji Ogawa, un physicien, un biophysicien, expert en résonance magnétique, à développer une technique, enfin, à mettre en place une série d'expériences qui ont abouti, en fait, à la mise, à la découverte, ou au développement, plutôt, de la technique d'IRM fonctionnelle par la méthode BOLD. Alors, je m'explique. C'était vraiment, ça a été très astucieux, et on parle beaucoup de peut-être donner le prix Nobel à Ogawa pour cette découverte. C'est un article, mais un article principe, c'est un article formidable. Ce que Ogawa, le raisonnement de Ogawa fut le suivant, et il reste tout à fait valable aujourd'hui, et en plus ça marche. Donc il y a probablement quelque chose de vrai là-dedans. Se basant sur l'observation de Fox et Raichel, de ce découplage, il a raisonné de la manière suivante. En condition basale, le sang artériel qui arrive dans une région par les capillaires contient un certain rapport entre oxy et déoxyhémoglobine. Oxyhémoglobine en rouge, déoxyhémoglobine en bleu. Donc vous savez, le degré de saturation de l'hémoglobine peut varier selon différents paramètres. Mais d'une manière générale, c'est clair que le sang artériel contient plus d'oxyhémoglobine vu qu'il apporte plus de l'oxygène au tissu. Si maintenant il y a activation, on vient de voir il y a un instant qu'il y a une augmentation du débit sanguin, c'est le mécanisme de couplage neurovasculaire que je vais discuter tout à l'heure, et qu'on a déjà vu depuis Sherrington finalement. Il y a une augmentation de la consommation de glucose, mais peut-être ça nous intéresse moins pour l'instant, mais il n'y a pas d'augmentation significative de la consommation d'oxygène. Ou en tout cas, la consommation d'oxygène n'est pas de même mesure que celle de l'augmentation du débit sanguin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, de manière tout à fait paradoxale, la région activée va contenir plus de oxyhémoglobine. Parce que si du sang artériel arrive dans une région et que la consommation d'oxygène n'augmente pas, eh bien cette région contiendra plus de oxyhémoglobine par rapport aux régions adjacentes. Ce qui est, d'une certaine manière, totalement contre-intuitif. Mais c'est sur ce principe que Ogawa a développé la BOLD. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsque le rapport oxy-déoxyhémoglobine est modifié, et en particulier lorsqu'il y a une augmentation de l'oxyhémoglobine, les propriétés paramagnétiques de l'hémoglobine changent. Donc, de ce fait, l'hémoglobine devient une sorte d'agent de contraste, si vous me passez l'expression, intrinsèque, interne. C'est le rapport oxy-déoxyhémoglobine qui, se modifiant, va fournir le signal détecté par IRM fonctionnel. Et c'est ce signal Blood Oxygen Level Dependent BOLD Signal. Il y a aussi dans ce signal IRM fonctionnel probablement des effets de volume aussi et d'autres, mais il demeure pas moins que je crois que maintenant, après 15 ans, il y a unanimité qu'une composante importante de ce signal qui est détecté en BOLD est un signal qui est lié à ce changement du rapport oxy-déoxy-hémoglobine. Et vous avez ici les paradigmes standards. Vous avez ligne de base, stimulation, ligne de base, stimulation. Donc vous avez le paradigme de stimulation ici, dans le temps, et enfin en tout cas par rapport au nombre de scans. Et puis vous voyez ce signal BOLD qui fluctue pas mal. Vous voyez qu'il y a pas mal de fluctuations autour de la ligne de base. Il y a pas mal de fluctuations autour lorsque c'est stimulé. Il ne faut pas oublier que ce sont des signaux très petits, des différences de 2 à 3%. Mais enfin, avec des analyses de signal appropriées et en faisant des moyennages, on obtient finalement quelque chose qui est significatif et qui produit ce signal d'activation. Et je vous prie de vous rappeler de cette question relative à la fluctuation qui sera que je reprendrai plus tard. En principe, ce qui est fluctuation est pris généralement comme une sorte de bruit de fond et que la moyenne âge permet d'éliminer ce bruit de fond. On verra qu'en fait, il y a de l'information dans cette fluctuation. Mais restons-en pour l'instant à cela. Alors, comment expliquer, enfin, pourquoi, si vous voulez, il y aurait, du point de vue métabolique, une augmentation de débit de consommation de glucose, mais pas de consommation d'oxygène immédiate? Eh bien, il suffit de revenir au modèle initial qu'on a proposé il y a quelques années. C'est clair que si du glucose est capté et il est traité de manière glycolytique au niveau de l'astrocyte pour ensuite être oxydé, mais avec un décalage temporel, eh bien, on ne sera pas surpris de noter que dans les temps, en fait, que durant l'activation, et là, de nouveau, les constantes de temps sont un peu floues, et je vous dis, comme je vous dis tout à l'heure, les différences de paradigme ne permettent pas toujours de faire des comparaisons, mais du point de vue du principe, on peut dire qu'il y aura une période, une fenêtre temporelle, si vous voulez, une fenêtre glycolytique, durant laquelle le débit sanguin augmente, la consommation de glucose augmente, mais pas celle d'oxygène. Et en fait, ceci, c'est vraisemblablement parce qu'il y a cette fenêtre glycolytique au niveau de l'astrocyte. À la limite, si le glucose était immédiatement oxydé par le neurone, eh bien, il n'y aurait pas de signal BOLD, parce qu'il n'y aurait pas ce léger décalage temporel qui permet de modifier le rapport oxy-déoxy-hémoglobine. Donc, si vous voulez, ce couplage neurométabolique neuroglial fournit en tout cas une base physiologique, métabolique, pour expliquer l'origine du signal BOLD. Cette fenêtre glycolytique, je pense que c'est un point important, fenêtre glycolytique. Alors, cette fenêtre glycolytique, justement, prédit que, en tout cas transitoirement, il devrait y avoir une production de lactate, je crois que je l'ai discuté suffisamment au cours des heures précédentes. Donc, une possibilité serait de pouvoir détecter une apparition, une augmentation transitoire, ou en tout cas avec une certaine cinétique à observer, de lactate au moment de l'activation, car il y a un excès de production de lactate durant l'activation, c'est ce que ce modèle prédit. Et là, là aussi, ça a été controversé pendant quelques années, mais et c'est depuis ces premiers papiers de 1995, ont maintenant été reproduits par divers groupes. Je vous montrerai un tout récent de 2007, de différents centres, donc il y a là aussi un certain consensus. Ça, c'est le papier original de Fram en 1995, qui est aussi une stimulation visuelle, comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure, un échiquier qui bouge. Et la stimulation, ça, c'est chez l'humain. Et ce qui peut être détecté par résonance magnétique spectroscopique cette fois, donc le signal chimique à l'origine qui produit des signaux spécifiques pour chaque molécule, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Vous voyez que il y a un pic transitoire de lactate. En fait, ce qui est intéressant, notez que dans ce paradigme particulier, en fait, même si la stimulation se prolonge pendant quelques secondes, voire même minutes, dans le cas particulier, le signal lactate n'est pas soutenu, il est transitoire. Mais et ce que vous voyez aussi, c'est que la stimulation s'accompagne d'une diminution de la concentration en glucose. Alors ce papier original a été discuté, certains l'ont reproduit, on reproduit ces résultats, d'autres pas, mais simplement on n'avait peut-être pas les signaux, les outils nécessairement suffisamment sensibles. Mais là, c'est un papier tout récent de Manja, donc du groupe de Camille Lougourbil, qui est avec une caméra, avec un aimant à 7 Tesla, qui a analysé le spectre RMN proton et durant une activation visuelle chez l'humain. Et ils ont pu, grâce à cet aimant très puissant, identifier divers pics. Je ne vais pas les commenter tous, mais vous voyez par exemple la taurine, la choline, le pic glutamate-glutamine, l'aspartate, le GABA, le N-acétyl-aspartate et le lactate. Voilà le pic au repos. Et voilà lors de la stimulation. Alors, évidemment, ça ne donne pas grand-chose quand on le regarde comme ça, mais si on se concentre sur le pic lactate chez des sujets individuels, 12 sujets différents, ici, la stimulation, de nouveau, par ces blocs, basal, stimulé, basal, stimulé, basal. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a, en fait, pour pratiquement chacun des sujets, là, c'est peut-être moins prononcé, mais pour chacun des sujets, une augmentation transitoire du lactate durant la stimulation. Et lorsque l'on fait la moyenne, on voit qu'effectivement, il y a une augmentation transitoire du signal lactate durant l'activation. C'est une augmentation de l'ordre de 20%. Lorsque l'on regarde les différents, certains de ces pics, lactate, glutamate, glucose, aspartate, soit pendant une stimulation de 5 minutes, soit pendant une stimulation plus longue de 10 minutes. Ce que l'on voit, c'est des images en miroir, en quelque sorte. On voit des augmentations de lactate, en micromoles par gramme, et de glutamate, ce qui ne nous surprend pas, lors de l'activation neuronale idéale, la libération de glutamate, et par le truchement de l'activité glycolytique de l'astrocyte, production de lactate. Par contre, il y a une diminution légère de glucose et une diminution légère de aspartate. Alors, il y a des raisons à ça, mais je ne vais pas les commenter en détail aujourd'hui. Ceux qui sont intéressés peuvent voir cet article qui est sorti dans le Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism. Donc, si vous voulez, la production de lactate pendant l'activation, je dirais, est aujourd'hui quelque chose qui est admis et qui est en ligne tout à fait avec l'idée qu'il y a une fenêtre glycolytique astrocytaire qui, d'une part, modifie le rapport oxydéoxyhémoglobine était à la base du signal BOLD, et d'autre part, produit ce signal de résonance magnétique spectroscopique qui est le signal lactate. Alors, ce qui est intéressant, vous avez vu là, il y a des stimulations assez longues, 5 à 10 minutes. Alors, évidemment, il faut être, je crois, indulgent. Tout ça, on peut se dire, qu'est-ce que ça a à voir vraiment avec l'activation synaptique qui est de l'ordre des millisecondes. Mais il faut simplement se dire que le système est poussé pour produire des signaux détectables. Et il faut admettre que l'intégration sur un temps long, du point de vue synaptique, peut-être pas tellement du point de vue comportemental, ça nous arrive tout de même d'être attentif à quelque chose pendant plus de 5 minutes. Donc, ce n'est pas complètement absurde du point de vue comportemental. C'est clair que c'est une autre échelle de temps par rapport aux échelles de temps synaptiques, et j'ai déjà discuté lors des cours précédents les moyens que l'on peut envisager d'intégration spatio-temporelle de ce signal, enfin de ce couplage neurométabolique dans un contexte justement d'autres constantes de temps. Mais voilà, donc le message est là, et l'idée c'est que voilà, en stimulant pendant très longtemps, on active tout ce système, ce couplage, un maximum, si vous me passez l'expression, et que ceci va produire des signaux qui sont détectables par les techniques d'imagerie. Mais ce qui est intéressant, c'est que, de nouveau, le groupe de Raichel, en particulier Mark Minton, a étudié de manière systématique le débit sanguin, la consommation d'oxygène, et la fraction d'extraction d'oxygène, ce que je vais commenter dans un instant, pendant une longue période de stimulation. Et essayer de voir, en fait, si vraiment, il s'agit simplement, quand on se met dans des paradigmes de temps long, on ne fait qu'amplifier quelque chose qui se passe de manière uniforme dans des temps unitaires courts, ou est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que l'augmentation du débit sanguin est soutenue pendant toute la durée? Est-ce que l'augmentation de la consommation de glucose, qui est faible au début, reste très faible ou modifiée? Enfin, une analyse sur un temps intégré beaucoup plus long. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est tout à fait intéressant. Vous avez ici le débit sanguin qui, après une minute, est bien augmenté, ici de l'ordre de 30 à 40%. C'est ce à quoi on s'attend. C'est un paradigme de stimulation visuelle forte. On peut s'attendre dans des paradigmes cognitifs plus subtils. Les augmentations sont de l'ordre de 15 à 20%. Ce qui est d'ailleurs intéressant, je rediscuterai ça plus tard. Mais ce que l'on voit, c'est qu'après 13 minutes, l'augmentation du débit sanguin est là, mais elle est quand même un peu plus faible, et à 25 minutes, encore un peu plus faible. Donc ce que l'on voit, c'est qu'il y a une sorte de, on ne va pas parler d'adaptation, le terme est difficile, il y a, au cours du temps, si la stimulation est maintenue pendant un temps prolongé, il y a toujours une augmentation du débit sanguin, donc il y a toujours un couplage neurovasculaire, seulement il est légèrement moins fort. L'augmentation est moins importante si l'on maintient pendant 25 minutes la stimulation. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la consommation d'oxygène, elle, augmente si l'on maintient avec le temps la stimulation. À une minute, elle est faible. Comme je vous ai dit d'emblée, l'augmentation de la consommation de glucose n'est pas de zéro pendant l'activation, mais elle est moindre. Elle est de l'ordre de 3 à 4% alors qu'on a une augmentation, dans le cas particulier, de 40% du débit. Mais avec des stimulations soutenues, un maintien de cette activité, à 13 minutes, l'augmentation de la consommation d'oxygène est plus grande et, en fait, à 25 minutes, encore plus. Ce qui, finalement, n'est pas là pour nous étonner parce que, comme je l'ai mentionné au tout début, on doit bien s'imaginer que cette fenêtre glycolytique est bien une fenêtre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce lactate va être oxydé au niveau du neurone, qu'il y aura donc un recouplage, donc une augmentation de la consommation d'oxygène. Et ce que l'on fait avec ces expériences qui sont faites chez l'humain, ce n'est pas quelque chose quand même de tout simple, on s'approche de reconstituer temporellement, mais sur des temps différents, d'avoir une correspondance de ces protocoles qui se déploient sur un temps très long de ceux qui se passeraient dans un temps très court au niveau cellulaire, c'est-à-dire entrée de glucose, traitement glycolytique, pas de consommation d'oxygène, production de lactate, oxydation du lactate, consommation d'oxygène qui augmente. Et tout ça, évidemment, est intégré spatialement et temporellement. Et cela donne cette image qui est tout à fait compatible avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'avec le temps, il y a un certain recouplage, donc l'oxygène, la consommation d'oxygène va augmenter. Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est que l'extraction, c'est une donnée, c'est une valeur qui est intéressante. Finalement, combien d'oxygène est extrait à partir d'un volume de sang donné? Eh bien, on ne sera pas surpris de voir que cette extraction d'oxygène, oxygen extraction fraction, augmente avec le temps parce que le débit sanguin diminue et la consommation, l'extraction justement d'oxygène augmente, ce qui se reflète donc ici. Et ce n'est pas seulement pour le débit sanguin que cette analyse temporelle a été faite, mais également plus récemment pour la consommation de glucose. Et ce que l'on voit, c'est qu'en fait, la consommation de glucose diminue aussi, 6 minutes, 20 minutes. Vous avez ici la région étudiée, toujours le cortex visuel. Vous avez ici, en valeur semi, en données semi-quantitatives, ici la consommation à 1 minute et ici la consommation à 20 minutes. Donc, il y a aussi une diminution de la consommation de glucose avec le temps, ce qui n'est peut-être pas entièrement surprenant parce que le lactate produit par la fenêtre glycolytique va être oxydé de manière préférentielle et donc la consommation de glucose va diminuer. Alors, ceci m'amène à discuter par rapport justement à ces données métaboliques, la régulation du débit sanguin. On voit que, enfin ce couplage neurométabolique, je crois que c'était pratiquement la première diapositive que j'ai montrée dans ce cours, c'était la fameuse diapo du texte de Sherrington à la fin du 19e siècle, qui montrait qu'il y a un couplage neurométabolique, neurovasculaire, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une activité synaptique, il y a une augmentation du débit sanguin. Et il y a eu beaucoup d'agents, de molécules, d'ions qui ont été impliqués comme pouvant signaler ou effectuer ce couplage entre l'activité synaptique et l'activité et le débit sanguin. Et comme pour le métabolisme, finalement, on s'est très peu intéressé aux astrocytes jusqu'à il y a une dizaine d'années. Alors, nous-mêmes avons beaucoup travaillé sur le couplage métabolique, mais différents groupes ont travaillé aussi sur le rôle des astrocytes dans le couplage neurovasculaire, c'est-à-dire des processus basés au niveau de l'astrocyte, donc l'astrocyte détectant, toujours dans cette optique que l'astrocyte détecte l'activité synaptique et que d'une manière ou d'une autre, il la couple à au débit sanguin également. Alors, là, je dois faire un petit rappel métabolique. Donc, je vais vous commenter brièvement, parce que c'est un peu en dehors du cours, quels sont les agents actuels que l'on pense être impliqués dans ce couplage, et notamment quelles molécules produites par les astrocytes semblent jouer un rôle dans ce couplage vasculaire. Mais j'aimerais discuter ici, vu que l'on est en plein dans cette question de la fenêtre glycolytique, discuter une théorie, notamment proposée par de nouveau Raichel et Minton. Raichel, d'ailleurs, sera là. Je reviendrai lors de la dernière cours sur le colloque qui aura lieu le 27 mai, mais un des conférenciers du colloque du 27 mai sera justement Mark Raichel. Et c'est vraiment quelqu'un qui a cette optique de prendre les signaux d'imagerie et d'utiliser l'imagerie cérébrale fonctionnelle en partie pour, comme outil pour les neurosciences cognitives, mais aussi comme fenêtre, comme outil pour mieux comprendre le fonctionnement de base du métabolisme cérébral. Alors, la question que Raichel et ses collègues se sont posées, c'est de se dire si finalement il y a une glycolyse qui est activée pendant les phases initiales de l'activation, est-ce que cette fenêtre glycolytique pourrait servir aussi de signal pour augmenter le débit sanguin? Alors, je passe, ça a l'air très astucieux comme ça, et ça l'est d'ailleurs, mais je passe un peu sur l'arrière-plan conceptuel et expérimental sur lequel il s'est basé, et je vais aller droit au but. Ce que Raichel et ses collègues ont posé comme question et l'ont testé expérimentalement chez l'humain, c'est de se dire finalement, si il y a une stimulation de la glycolyse, donc de transformation de glucose en pyruvate, vous vous souvenez, en fait, cette production de pyruvate va aboutir à la production de NADH. Et la transformation de pyruvate en lactate permet de régénérer du NAD, parce que le proton va se mettre sur le pyruvate pour produire du lactate, régénérer du NAD, dont vous vous souvenez qu'il est absolument indispensable, qu'il est absolument indispensable pour que la glycolyse continue. Donc s'il n'y a pas, alors s'il y a l'oxygène, s'il y a une phosphorylation oxydative, enfin le cycle de Krebs c'est la phosphorylation oxydative, il y a régénération de NAD de toute façon. Mais si il y a seulement entre guillemets une glycolyse, il faut bien un moyen de régénérer le NAD. Et la seule manière de régénérer du NAD, c'est de produire du lactate. C'est le principe même de la glycolyse. C'est ce qui se passe dans l'astrocyte, justement pendant l'activation. Alors, en fait, plus que NAD, NADH, enfin, isolé, ce dont il faut parler, c'est le rapport NADH-NAD. Et lorsque la glycolyse est stimulée, il y a augmentation de NADH, donc, en tout cas transitoirement, donc augmentation du rapport NADH-NAD. Alors, Raichel a proposé, s'est dit, mais finalement, et il y avait d'autres expériences in vitro dans d'autres modèles qui le montraient, c'est que des changements du rapport NADH-NAD, c'est-à-dire une augmentation du NADH, pouvaient constituer un stimulus vasodilatateur. Je vous commenterai tout ça dans un instant. Donc, il s'est dit, finalement, cette fenêtre glycolytique qui produit du lactate pour l'utilisation des neurones, va aussi produire transitoirement, enfin, va aussi modifier le rapport NADH-NAD dans le sens d'une augmentation du NADH. Et donc, cela devrait en fait produire une pourrait produire une vasodilatation. Alors, ce qu'il a fait de manière très, je trouve, c'est une expérience très, très brute, on va dire, mais en fait très intéressante, il a injecté, il a augmenté les niveaux de lactate circulant en se disant que ces niveaux de lactate circulant vont modifier l'équilibre lactate-pyruvate et le shifter, si vous me passez l'expression, le pousser vers une augmentation du NADH. Je reprendrai ça dans un schéma dans un instant, parce que ce n'est pas toujours facile de s'imaginer ces choses qui baissent et qui augmentent. Mais en résumé, la manip était la suivante. On injecte du lactate, on active et on mesure le débit sanguin dans une région corticale. Si effectivement le rapport NADH-NAD, donc lactate-pyruvate, est important, eh bien il devrait y avoir une augmentation encore plus grande du débit en présence de lactate circulant. Alors, bon, la question que vous pourriez me poser, c'est, je vous ai bien dit que finalement, le lactate ne passe pas très bien la barrière hémato-encéphalique, que finalement, à quoi bon injecter du lactate à la périphérie s'il ne passe pas ? Bon, il faut le dire, le lactate, ce n'est pas qu'il ne passe pas, il y a d'ailleurs des transporteurs au monocarboxylate au niveau des capillaires, simplement, il passe beaucoup moins que le glucose, à peu près 7 à 8 fois moins. Mais ceci dit, et là c'est une manip extrêmement intéressante qui a été publiée il y a 3-4 ans, 5 ans peut-être, par un groupe anglais, Stéphanie Amiel, qui a en fait mesuré la consommation de glucose par TEP, 2-déoxyglucose basale, pas d'activation, rien, 2-déoxyglucose basale lorsqu'on injecte du lactate à la périphérie. Et la question était la suivante, si effectivement le lactate passe la barrière hémato-encéphalique et est vraiment le substrat énergétique préféré des neurones, on devrait pouvoir mettre en évidence une diminution de la consommation globale de glucose par le cerveau, par TEP. Eh bien, c'est ce qu'ils ont montré chez 7 ou 8 sujets en injectant du bicarbonate comme contrôle ou du lactate. Eh bien, l'injection périphérique de lactate diminue la consommation cérébrale de glucose, ce qui montre bien que, un, le lactate passe la barrière hémato-encéphalique, deux, qu'il est consommé préférentiellement. Donc, si vous voulez, la manip de Reichel n'était pas complètement absurde de se dire « j'injecte à la périphérie du lactate et puis ça devrait shifter l'équilibre NADH-NAD vers le NADH ». Et si ce NADH est vraiment un signal vasodilatateur, je devrais avoir une augmentation du débit sanguin. Alors, effectivement, c'est ce que Mintoon, Reichel, enfin le groupe de Saint-Louis a trouvé. Vous avez ici une stimulation visuelle toujours la même. Ici, la région d'intérêt. Et en fait, là, c'est une valeur dans l'absolu, mais comparé à la condition contrôle, il y a bien sûr une augmentation du débit sanguin. Cette fois-ci, on mesure le débit sanguin. Hein, le signal ici est le signal de débit sanguin, eh bien ce signal d'augmentation du débit sanguin est plus grand lorsqu'on a injecté du lactate à la périphérie. Ce qui montre bien que, dans tout cas, et vous le voyez ici, vous avez dans trois régions d'intérêt autour du cortex visuel primaire, l'injection de véhicule contrôle, ici, et vous voyez ici le débit sanguin, et vous voyez l'augmentation du débit sanguin lors de l'activation normale, et ici, lors de l'activation en présence de lactate à la périphérie. Donc, le lactate a augmenté l'effet de l'activation sur le débit sanguin. Et en fait, le raisonnement qui est fait par le groupe de Reichel, c'est le suivant. Voilà les voies métaboliques classiques, on va dire, glucose, pyruvate, pyruvate, lactate. Alors, durant l'activation, il y a activation de cette glycolyse, donc avec une augmentation de la formation de pyruvate et une augmentation de ce fait de NADH. C'est-à-dire que ensuite, il y aura des rééquilibrages qui vont faire que le pyruvate, en se transformant au lactate, va libérer du NAD et ce rapport va se rétablir. Mais dans les temps précoces, la glycolyse, parce qu'elle consomme du NAD, va augmenter le NADH. Donc le rapport, pendant la glycolyse, le rapport NADH-NAD va augmenter. Et, c'est bien ce qui est montré ici par les flèches rouges, ça c'est l'activation. Si on injecte du lactate à la périphérie, eh bien on va pousser la réaction encore plus vers, dans cette direction, et donc encore plus vers la production de NADH. Donc, ça montre bien que lorsque l'on modifie le rapport lactate-pyruvate dans le sens qui va aboutir, si vous voulez, à une augmentation du rapport NADH-NAD, on va vers une vasodilatation. Et puis ensuite, les mécanismes, il y a des mécanismes de contre-régulation qui permettent de régénérer le NAD. Alors, un, c'est bien sûr la production de lactate, mais comme, vous voyez, si on injecte du lactate à la périphérie, la concentration de lactate va augmenter. Donc, pour la loi de l'action de masse, la conversion de pyruvate en lactate va être inhibée, tout simplement. C'est ça l'idée. En injectant du lactate à la périphérie, on va inhiber la transformation de pyruvate en lactate, donc la régénération du NAD. Donc, il restera plus de NADH, donc il y aura plus cet effet vasodilatateur. Il y a quels sont les mécanismes, si vous voulez, par lesquels, on peut rétablir le NAD? Alors, je ne vais pas reprendre la biochimie qu'on a déjà vue en détail il y a plusieurs heures, mais vous voyez, un des mécanismes, c'est ici la production justement de lactate à partir du pyruvate. On régénère du NAD. Et puis, une autre voie, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qu'on appelle le aspartate-malate shuttle, la navette aspartate-malate qui se passe au niveau de la mitochondrie et qui permet de régénérer du NAD. Donc, tout ça, c'est des mécanismes de compensation qui sont remis en jeu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Raichel ils ont fait la manip inverse. Ils ont injecté du pyruvate chez l'humain, et l'idée, c'est que de cette manière, on va en fait faciliter la production de lactate et la régénération de NAD, donc l'activation devrait être plus petite. Et c'est bien ce qui s'est produit. Alors, je passe les résultats, mais c'est bien ce qui s'est produit. Il y a, cette fois-ci, lors de l'activation, je résume, si on injecte du lactate, on augmente l'effet NADH, donc on augmente la vasodilatation. Si on injecte du pyruvate, c'est l'effet inverse. On facilite la régénération de NAD, donc il y a moins de NADH, et donc il y a un effet moins important de l'activation. On inhibe l'augmentation du débit sanguin dû à l'activation. Et vous avez ici le résumé, de ce que je viens de dire, des différents travaux qui vont dans ce sens. C'est donc que lors de l'activation, par les mécanismes que j'ai décrits, le glutamate est recapté, etc., avec le sodium, enfin je ne vais pas revenir là-dessus, et il y a une activation de la glycolyse avec augmentation du rapport NADH-NAD. Ceci, en fait, le NADH, pourquoi a-t-il un effet vasodilatateur? C'est qu'en fait, il va entre autres, par l'action de la NADPH oxydase, produire du NO. Et le NO est un vasodilatateur. Mais enfin, je ne rentre pas dans les détails. Sachez simplement que ceci peut être un signal vasodilatateur, ce rapport NADH-NAD. Et puis, des mécanismes de compensation se mettent en jeu, soit le pyruvate lactate qui régénère le NAD, soit la malate aspartate shuttle, la navette aspartate, malate aspartate régénère aussi du NAD, soit aussi l'augmentation du débit sanguin éventuellement permet de dégager et de rétablir l'équilibre NADH-NAD. Donc, voilà pour ce qui est un mécanisme un peu particulier qui est proposé actuellement, mais qui est lié à cette fenêtre glycolytique astrocytaire pour expliquer, entre autres, l'augmentation du débit sanguin, et qui est donc un mécanisme basé sur une signalisation neurone-astrocyte. Mais ce n'est pas le seul qui est évoqué. Je vous ai dit que pour ce couplage neurovasculaire, il y a en fait des dizaines peut-être d'agents, de molécules, d'ions qui ont été évoqués comme pouvant jouer ce rôle de couplage. Et plus récemment, toute une série de groupes ont étudié et mis en évidence le rôle de l'astrocyte et en particulier du réseau astrocytaire dans ce couplage neurovasculaire. Alors, selon ce point de vue, en fait, lors de l'activation synaptique, le glutamate ou l'ATP, libérés par les neurones activés, vont agir soit sur des récepteurs métabotropes au glutamate, présents sur l'astrocyte, soit sur des récepteurs purinergiques, aussi, qui sont activés par l'ATP. Et le résultat de cette activation astrocytaire est une augmentation de l'activité de la phospholipase C et ensuite, surtout, ce qui est important, une augmentation du calcium intracellulaire. Et ça a été démontré dans plusieurs paradigmes. Donc, lors de l'activation synaptique, il y a une réponse calcique au niveau astrocytaire. Alors, la proposition qui est faite, et ce n'est pas seulement une proposition, il y a toute une série d'expériences qui ont été effectuées d'ailleurs in vivo par microscopie biphotonique, qui ont permis de montrer que cette augmentation de calcium, entre autres, est corrélée, si vous voulez, à un changement de diamètre des capillaires intracérébraux et même au niveau des artérioles, de manière plus convaincante. Et ceci est médié, en fait, par la formation d'acide arachidonique. La phospholipase A2, qui est l'enzyme qui permet la formation d'acide arachidonique, est activée par ce burst calcique. Et cet acide arachidonique, est soit sous l'action de la cyclooxygénase, permet de former notamment des prostaglandines qui, elles, vont avoir un effet vasodilatateur. Soit il a été également rapporté la formation de ces intermédiaires, de ces prostanoïdes qui, eux, en particulier le HETE, ont des effets plutôt vasoconstricteurs. Donc, si vous voulez, il y a toute une vision actuellement, et ce n'est pas seulement une vision, ce sont des données expérimentales, y compris in vivo, qui montrent qu'un signal neuronal, au départ, toujours, le glutamate, dans le cas particulier aussi l'ATP, déclenche un signal dans le réseau astrocytaire, un signal calcique, par le biais d'activation de récepteurs métabotropes pour le glutamate ou purinergique P2 pour l'ATP, et que ce burst, cette augmentation du calcium, va déclencher notamment la formation d'acide arachidonique, de dérivés de l'acide arachidonique qui vont être vasoactifs. Donc on voit là aussi un rôle d'intermédiaire de l'astrocyte dans ce couplage neurovasculaire. Donc, si je vous montre ça, en fait, il y a beaucoup de littérature là-dessus. C'est un peu en dehors directement de ce que je voulais traiter dans ce cours, mais c'est simplement pour aussi remettre en perspective ce que je viens de vous montrer quant aussi à un rôle de l'astrocyte, mais cette fois-ci par le biais de mécanismes, on va dire, purement neuroénergétiques, c'est-à-dire le rapport NADH-NAD comme effecteur dans la vasodilatation. Il y a aussi, d'ailleurs, ce n'est pas montré sur ce schéma, mais il y a aussi la possibilité que la formation de NO soit directement au niveau vasculaire, soit éventuellement intermédiée par l'astrocyte, puisse être un des agents vasodilatateurs. Alors, vu que l'on est dans cette question de ce dialogue neurone-glie, cette fois-ci à visée neurovasculaire, je voulais juste discuter quelque chose que je me dois de discuter, même si j'ai un regard un peu critique là-dessus, mais il faut quand même le discuter, c'est toute cette notion de ce dialogue neuro-astrocytaire, non pas dans un contexte neurométabolique, comme j'ai discuté, non pas neurovasculaire, comme je viens très brièvement de l'aborder, mais je ne vais pas dire neuroneuronal, mais en fait, dans le sens où l'activité astrocytaire, et en particulier la libération de glutamate par les astrocytes, qui a été montrée par différents groupes, pourrait moduler l'activité synaptique. Donc, je ne me suis pas beaucoup attardé là-dessus, mais j'ai déjà discuté cette idée, qui est une idée tout à fait antidogmatique, mais qui est basée là aussi sur des données expérimentales obtenues par des laboratoires tout à fait sérieux et compétents, celui de Mike Nedergaard, de Phil Hayden, de Carmignotto, de Araque en Espagne, enfin, de Volterra à Lausanne notamment. Enfin, il y a toute une série de laboratoires très compétents qui ont montré que non seulement l'astrocyte. On arrive bientôt au bout. Non, Non seulement hein, il veut plus bon non seulement il va bien tenir encore 7 minutes. Non, j'ai pas de chargeur, je suis venu ça. Mais en fait, mais c'est bizarre parce que d'habitude ça tient de plus de 2 heures. Je ne sais pas ce que, pourquoi ça le fatigue tellement. Bon, en fait, ce que je voulais commenter ici, c'est que non seulement il y a, si vous voulez, un dialogue neuro-astrocytaire, comme je viens de le discuter, soit métabolique, soit vasculaire, mais que en fait, il y a également un dialogue astro-neuronal, si vous voulez, du point de vue de la transmission synaptique. Alors, en fait, l'idée, c'est qu'il peut y avoir une libération de glutamate à partir des astrocytes et que ce glutamate pourrait agir, selon les travaux, notamment de Haydon et Carminato, sur des récepteurs au glutamate. Ah ben, il est mort, là. Mais ça m'étonne vraiment. Bon, on va... sur des récepteurs au glutamate, des récepteurs NMDA, plutôt extrasynaptiques et qui ont des compositions sous-unités différentes. Et en fait, vous voyez que, ça c'est différents travaux, qui montrent que les réponses glutamatergiques neuronales médiées par le glutamate libéré par les neurones sont inactives très rapidement, par exemple, donc ont des propriétés différentes, et que par contre, celles en réponse au glutamate libéré par les astrocytes ont des inactivations plus lentes. Donc, que ceci aurait un rôle dans la signalisation synaptique. C'est juste pour vous donner cette idée. On va y aller un peu tranquillement. Et que, d'ailleurs, des travaux, notamment du groupe de Ollier, ici en France, à Bordeaux, ont montré que non seulement le glutamate est libéré et agit sur les récepteurs neuronaux, mais également des substances comme la D-sérine qui peuvent moduler l'activité de ces récepteurs neuronaux, et cette D-sérine proviendrait de l'astrocyte. Donc, ce que je veux simplement dire pour que quand même ce soit dit une fois dans ce cours, même si j'ai quelques, pas réserves, mais disons j'ai de la peine à vraiment intégrer entièrement du point de vue physiologique ces résultats, il faut savoir qu'il y a également potentiellement la possibilité que l'astrocyte, en libérant du glutamate et de la sérine notamment, module l'activité synaptique, donc qu'il y ait aussi un dialogue dans le sens astrocyte-neurone. Quant à moi, cette libération de glutamate glial, comme je vous l'ai déjà dit, elle a une autre signification physiologique possible. Alors, vous me direz que je suis peut-être un tout petit peu obsédé par le métabolisme, mais vous vous souvenez, je vous ai déjà montré ce diapo où notre idée est que le glutamate qui est libéré au niveau glial, en fait, va agir de manière paracrine sur des astrocytes avoisinants et donc être recapté. Parce que, comme je vous l'ai dit, finalement, l'astrocyte ne sait pas si le glutamate libéré provient du neurone ou de l'astrocyte qui est à côté. Et ceci va causer une entrée de sodium, l'activation de la NAKTPase, enfin tout le mécanisme dont on a parlé, et une entrée de glucose, et créer ainsi, en plus de la vague calcique, qui est bien connue, la vague sodique et surtout cette vague métabolique, ce qui a comme conséquence, voilà, j'aimerais bien pouvoir mettre ça quand même. Non, il est... Ce qui a comme conséquence, en fait, d'augmenter le volume qui va être l'objet de cette entrée de glucose, de cette glycolyse, lorsqu'un groupe de synapses est activé. Donc, en fait, de notre point de vue, La libération de glutamate astrocytaire déclenchée par l'activité synaptique n'a pas nécessairement un rôle de modulation de l'activité synaptique, comme je viens de vous le montrer, en agissant sur des récepteurs extrasynaptiques et modulant ainsi la transmission synaptique, mais aurait plutôt un rôle d'amplificateur métabolique, de faire en sorte que, finalement, ce signal d'entrée de glucose qui est initialement confiné à quelques astrocytes autour de la synapse, eh bien, qu'il y ait une amplification de ce signal de proche en proche par cette vague calcique, vague sodique et vague métabolique. Pour terminer, voilà, je crois que là, il me donne le signal qui veut s'arrêter, mais je vais peut-être juste vous donner un dernier commentaire là-dessus, sur cette question de l'amplification du signal métabolique par cette vague calcique. Je vais essayer de quand même attraper ça, voilà. L'idée, c'est que, et je reprends juste quelque chose que je vous ai déjà dit, c'est que cette amplification du volume qui est intéressée par le signal métabolique à partir d'une activation synaptique, ensuite de la libération de glutamate et de cette augmentation justement du volume dans lequel le glucose va rentrer, peut jouer évidemment un rôle aussi pour la fourniture de substrats énergétiques aux neurones GABAergiques, dont on a vu qu'ils ne fournissent pas de signal métabolique. Le GABA, bien qu'étant recapté par l'astrocyte, ne stimule pas l'entrée de glucose et la production de lactate, donc il n'est pas pour lui-même un signal métabolique. Mais on peut s'imaginer que lors de l'activation glutamatergique, qui va justement aller bien au-delà du volume impliqué par ou intéressé par les quelques synapses glutamatergiques, qu'il y aura cette amplification, cela permettra de... si vous voulez également fournir de l'énergie aux neurones GABAergiques. Alors voilà pour aujourd'hui, et la prochaine fois on abordera les relations qu'il y a entre cette image produite par l'imagerie cérébrale fonctionnelle et des situations de pathologie neuropsychiatrique.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.